France Inter.
Des mauvais souvenirs.
Sociétaire, on est à l'antenne, sociétaire de la Comédie Française. Le comédien caméléon Laurent Stocker a mené de front une admirable carrière théâtrale, tout en ayant joué dans une quarantaine de films ainsi qu'à la télévision. Faisant montre d'une palette de jeux impressionnante, il fut deux fois président de la République, tueur en série et patron de presse. Il a incarné le grand Pierre Lazareff. Aussi à l'aise sur les planches en Figaro qu'en Oncle Vania, le lauréat du César du meilleur espoir masculin pour son rôle dans Ensemble, c'est tout de Claude Berry, a reçu en avril dernier le Molière du meilleur comédien dans un second rôle, bien qu'il en tienne quatre, pour la pièce Le soulier de satin de Paul Claudel, spectacle de 7 heures merveilleuse, mis en scène par Éric Ruff, qu'on pourra bientôt voir à Avignon dans la cour des papes. En ce moment, il est aussi Coviel, le valet du bourgeois gentilhomme de Molière, mis en scène par Valérie Le Sort et Christian Heck au français, et un éditeur germano-pratin dans le film Vacances forcées de François Prévost-Légoni et Stéphane Archinard, en salle depuis ce matin. Je tiens à ajouter, juste pour le plaisir de dire le nom d'un fromage, qu'il a prêté sa voix pour Gallimard Jeunesse au récit Le Camembert volant de Jean-Philippe Arouvignot. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure. Eva Bester.
Bonsoir Laurent Stocker.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose? Vous avez vu que nos noms riment.
Oui, Bester, Stocker. Oui.
Non, on s'était mis d'accord.
Bester, Stocker.
Voilà, merci de ne pas rompre déjà le contrat qui vient de nous unir. Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
La dernière chose qui m'a enthousiasmé, c'est quand j'ai joué Le Bourgeois Gentilhomme, hier.
C'est vrai?
Soir, ouais. Je suis toujours enthousiaste quand je joue, parce que si on perd l'enthousiasme, on n'arrive pas à jouer comme il faut. Donc moi, quand je suis en scène, je suis enthousiaste. C'est comme la chanson de Claire qui dit « Quand je joue, je suis comme un fou » et tout ça. Moi, j'aime bien. Moi. C'est ça qui m'enthousiasme. Quand je regarde l'actualité, ça m'enthousiasme moins. Donc le refuge du rêve et du jeu, bah y a que ça qui peut nous enthousiasmer.
Vous avez un grand-père maternel d'origine italienne qui était installé à Saint-Dizier où vous êtes né. Et vous dites que même si ce n'était pas son métier, c'était un véritable comédien.
Oui, mais du côté de ma mère, c'était une deuxième génération d'immigrés italiens. J'ai un père aussi qui est un comique. C'est des gens qui sont pas dans le métier de comédien, mais qui auraient très bien pu l'être. Et c'est des comédiens nés un peu. Et le côté italien aussi. Dans les familles, ça parle beaucoup, ça parle de gastronomie, mais ça fait des blagues, ça voilà,
et ça
parle fort.
Pas.
Si aussi, tout
oui,
est mélangé,
bien sûr.
C'est ça. Et dans l'est de la France, il y a énormément de gens qui ont des noms plutôt à consonance alsacienne ou allemande, mais qui ont des origines aussi italiennes. Dans les cimetières de Lorraine et d'Alsace, il y a énormément de tombes avec des noms italiens. Parce que ça rappelle cette génération qui est arrivée entre 1890 et 1910.
Et vous, est-ce que vous êtes émotif?
Assez, oui.
Et vous le montrez?
S'il y a besoin, oui, mais ça dépend. Ça dépend avec qui, et puis ça dépend... Oui, je peux être très ému, oui. Oui, ça peut, je peux être ému sur une musique, sur un plat, sur une œuvre, sur plein de choses. Mais montrer l'émotion, par exemple, quand c'est du jeu, c'est moins intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que le spectateur fasse lui-même son émotion. Et si un acteur pleure sur scène ou au cinéma, on enlève les pleurs du spectateur, je trouve.
Mais dans la vie?
Dans la vie, oui, je peux être ému assez facilement, oui.
Mais vous pouvez le contrôler? Et ne pas le montrer.
Ça dépend.
Vous avez prononcé le mot cimetière. Alors je m'engouffre immédiatement dans le sujet des cadavres. Il paraît que entre 8 et 10 ans, Laurent Stocker, vous assistiez le curé du village pour toutes les funérailles et les mises en bière.
Oui.
Vous avez vu beaucoup de cadavres.
Oui, mais c'est pour ça que j'ai une propension à l'humour noir et que j'aime bien ça. C'est-à-dire que j'étais l'assistant officiel du croque-mort du village, qui était le curé, quoi. Donc, il disait, comme lui, il est sérieux, il va faire les enterrements. Donc, je faisais les mises en bière avec lui et puis je faisais l'enterrement.
En quoi cela consistait-il?
Bah, ça consiste quand la personne vient de mourir.
À la mettre dans la
déjà,
terre.
Déjà, il faut lui faire sa toilette. Ça, c'était pas moi, heureusement.
Ah oui.
Mais ensuite, une fois que la personne est dans le cercueil, moi, je venais avec le curé pour fermer le cercueil avec un agent de
un agent immobilier.
Un agent de police. Et donc, vous assistez là à quelque chose d'incroyable parce que vous assistez à la plus grande misère du monde, quoi. Avec les gens qui pleurent, avec les... Moi, j'ai enterré des vieux, des jeunes, j'ai enterré...
Des vivants ?
Hein ?
Des vivants ?
Des noyés ?
Ah oui,
ça m'est
des
arrivé
morts
aussi.
Plutôt.
Oui, des morts, ouais. Ouais, ouais.
La 20e heure. Eva Bester. Sur France Inter.
Laurence Stocker, vous êtes aussi passionnée d'astronomie depuis oui. l'adolescence.
Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que ça a à voir avec les enterrements?
La poussière d'étoiles, peut-être.
Oui, c'est ça. Et puis, le replonger dans le passé, parce que quand on regarde les étoiles, on regarde le passé.
Elles sont mortes.
Certaines sont mortes. En tout cas, leur lumière met un certain temps à nous parvenir. Et ça m'a toujours fasciné, en fait. Ça m'a toujours fasciné parce que ça a à voir avec... Avec ce qu'on pourrait appeler la foi, avec ce qu'on pourrait appeler quelque chose qui est incommensurable, qui nous échappe, et cette espèce d'échappée belle et d'échappatoire, moi j'aimais bien, enfant aussi, me dire que, voilà, il n'y avait pas que le côté de cette Terre où on est, mais il y avait aussi d'autres galaxies, d'autres planètes, d'autres systèmes solaires, et qui sait, d'autres vies, quoi. Donc ça m'intéressait.
Quel est votre rapport à la foi ou à la transcendance ?
C'est assez spécial, en fait. En vieillissant, je suis moins athée qu'avant. C'est peut-être parce que je sens le coup prêt à arriver. Je suis plutôt agnostique, mais voilà, tout ça est tellement incompréhensible. Et puis, le simple fait que l'univers soit infini, bon, bah, ça pose quand même des questions. Pour nous qui avons un début et une fin, a priori, dont on se souvient en tout cas, après, je sais pas.
Dans vos autres passions, il y a aussi le vin. Vous avez pris des cours d'œnologie et il y a quelque chose d'assez amusant. Je ne sais pas si c'est le mot, mais il paraît que votre père prenait l'argent que vos grands-parents vous donnaient petit pour vous constituer une cave à vin.
Mais oui.
Pour quand vous seriez adulte.
Décidément, quand vous parlez de mon enfance, je me dis que j'ai vraiment vécu de drôles de choses.
C'est-à-dire
que
vous étiez avec des cadavres et du vin.
Et du vin, bah, c'est ça. c'est un côté chat noir, chat blanc. Non, c'est-à-dire que oui. En fait, mon père était passionné de vin, il l'est toujours d'ailleurs, à 90 ans. Et puis, quand nos grands-parents nous donnaient de l'argent, ils disaient « Bon, alors prends ça et tu vas acheter tel château, tel truc. » Donc, quand on a 10 ans, 11 ans, on est très en colère contre son père. Et puis, quand on en a 25, on le remercie parce qu'il constitue une cave qui est absolument géniale. Et donc, du coup... Cette envie-là qui m'a transmise par le, il y a vraiment l'astronomie, c'est vraiment les étoiles et puis la terre, le vin qui va puiser avec ses racines des oligo-éléments, quelquefois des particules d'argent ou d'or. Dans certains vins, on en retrouve, c'est quand même dingue. Et ça, c'est mon père qui me l'a transmis. Du coup, j'ai fait pas très loin de la maison de la radio, ça s'invente pas, au musée du vin qui est rue des Eaux, des cours pendant 2 ans en même temps que je faisais le conservatoire. J'étais passionné par l'œnologie et je le suis toujours. Je suis toujours. C'est une vraie passion.
La gastronomie aussi, on peut dire sans se tromper que vous êtes un bon vivant.
Voilà, oui. J'ai vu un article récemment, les bons vivants font des bonnes morts.
Ah.
Il paraît. Alors tant mieux, si
bah
je
oui.
suis, j'espère.
Alors, Denis Podalydès dit que vous êtes l'antithèse entre la joie et l'inquiétude de vivre.
Bah oui, enfin, comme tout le monde, non ?
Non, il y en a qui penchent que d'un côté.
Ah oui ?
Ou aucun
ils ont pas
des
de
deux.
Bol.
Non. Si c'est que la joie, c'est plutôt pas
non,
mal.
Si c'est que la joie, c'est bien, mais je veux dire, on est constitué de toutes sortes de choses. Moi, je suis aussi joyeux qu'inquiet. C'est pour ça que en scène, avant d'entrer en scène, je fais beaucoup de blagues, je fais rire mes petits camarades à la Comédie Française. Il y en a certains que ça fatigue même un peu, et donc je sais avec qui je peux déconner juste avant de jouer. Mais c'est une façon de contrer le trac, de se dire que ce dont on a parlé avant, qu'à un moment donné tout ça se termine, que ça finit, qu'on a une fin, et que du coup on se dit bah voilà comment on peut contrer ça. Il faut rire, quoi, c'est tout.
Vous avez toujours envie de vomir avant de monter sur scène ?
Toujours.
Incroyable, depuis le début.
C'est toujours ça, et même rien que d'en parler, j'ai envie de vomir.
Je vous en prie.
Non. Ne vous inquiétez pas, le studio
mais je suis
est
juste
propre.
À côté, oui, mais...
Non, mais c'est un vrai truc de... Ça, c'est le mauvais trac. Alors, ça dépend des jours. Il y a des jours avec et des jours sans. Et il y a des jours où vraiment, je suis pas bien. Et je me dis, mais je vais pas y arriver. Je vais pas réussir à monter en scène. Une fois que je suis en scène, en général, ça va, tout va bien. Mais le côté, c'est quand même étrange. On fait, nous, des répétitions pendant des mois, des semaines sur un texte qu'on va présenter devant des gens qui sont assis dans une salle. Quand on est très jeune, quand on a jusqu'à, disons, 35 ans, on se pose pas cette question, mais qu'est-ce qu'on fait sur cette scène? Parce que c'est une passion, parce qu'on a envie. Et puis, après 50 ans, je dirais, il y a une espèce de chose qui se dit, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on s'inflige ça? Pourquoi on se fait... Et donc, ce trac, y en a qui disent, alors moi, j'ai de moins en moins le trac en vieillissant, moi, je l'ai de plus en plus, en fait, bizarrement.
Mais pas devant une caméra de cinéma, ça ne vous impressionne pas?
Alors,
du tout?
Alors, devant les caméras de cinéma, beaucoup moins, parce qu'il y a beaucoup moins de spectateurs. Et une fois que vous connaissez les spectateurs qui sont derrière la caméra, c'est les spectateurs de quelque chose de vivant, qui va après se transmettre sur un écran. Mais une fois que vous avez la petite équipe, que vous êtes en confiance, après, ça, tout va bien, quoi. Mais c'est vrai que tous les soirs, 800 personnes qui ne vous ont jamais vu, qui n'ont jamais vu le spectacle, et il faut les reconvaincre, il faut que ce soit aussi bien que la veille, il faut que ce soit même mieux. Il faut le silence qu'il y avait la veille, il faut l'enlever, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut se souvenir du texte, il faut faire attention. Et donc, du coup, ça, en vieillissant, ça fait une espèce de truc comme ça, d'arbre, je ne sais pas comment dire, luminescent, où on est un peu ébloui parfois, quoi.
Alors, en parlant d'arbres et d'éblouissement, je crois que votre premier émerveillement au théâtre, c'était justement au Théâtre du Peuple à Bussan dans les Vosges, avec la forêt au fond.
Oui, parce que j'ai commencé à faire du théâtre là-bas, j'ai grandi là-bas dans les Vosges. Et en fait, la particularité de Bussan, c'est qu'une fois que le spectacle va bientôt se finir, c'est que ça s'ouvre. Il y a les portes du théâtre en bois qui s'ouvrent, et là, vous avez une forêt de sapins vosgienne qui est absolument magnifique. Et donc, quand j'étais jeune, je pensais que c'était comme ça dans tous les théâtres. Et donc, après, j'ai vu un autre spectacle dans une autre salle et je me suis dit, mais pourquoi ça s'ouvre pas au fond et pourquoi il n'y a pas les arbres? Donc, voilà, quoi, il y avait un côté très, très bio, très, très écolo, déjà à l'époque, avec ce côté, on voit les arbres, voir les arbres vivants, plantés, éclairés à la fin d'un spectacle, quel que soit le spectacle. Moi, j'avais vu le mariage de Figaro là-bas. Après, j'en ai vu d'autres, mais c'est un souvenir quand même assez dingue.
À 16 ans, justement, l'enseignante qui vous emmenait au Théâtre du Peuple vous encourage à aller à Paris, vous vous y rendez, vous faites un bac avec option théâtre, et vous dites à ce sujet, Laurence Tocquère, « Je sais ce que c'est de se sentir comme un cutéreux », et à ce moment-là, vous vous êtes fait une promesse, « Je ne serai jamais parisien ».
Oui, c'est-à-dire que j'ai toujours, quand je vois des gens qui sont un peu en détresse dans le métro ou qui n'ont pas la bonne tenue, ou qui n'ont pas le bon accent, ou qui n'ont pas la mondanité parisienne, je m'y reconnais parce que j'ai vécu ça quand je suis arrivé à Paris. Ouais. Et c'était même assez violent, je dois dire, parce que c'était, je ne sais pas si on peut parler de transfuge de classe, mais si, en fait. Quelque part, il y a ça chez moi, et il y a eu ça, donc il y avait ce côté, c'est quoi c'est... J'avais un accent vosgien, à couper au couteau, je ne peux pas le faire là, mais c'est un truc entre le Suisse et le Belge, c'est quand même un truc très compliqué à retrouver. Des fois, je le retrouve quand je m'énerve. Mais par exemple, les Vosgiens, au lieu de dire « mon Dieu », ils disent « mon ». On fait « mon », comme ça. Voilà. Alors moi, je disais ça en classe, donc forcément, j'étais en première, au lycée Lamartine, et il y avait des gamins qui, dans la première semaine et la deuxième semaine, m'ont dit « mais tu viens d'où, en fait ?» J'ai dit « bah, en fait, moi, j'ai grandi dans les Vosges. » Et ils ne savaient même pas où c'était. Et bon, voilà, je dis « c'est des montagnes. Voilà. » À l'époque, il y avait encore de la neige et il faisait moins 15 degrés. J'arrivais vraiment de mes montagnes, puisque j'allais à l'école en raquette.
Ah oui.
Ce qui n'est pas commun, ce qui est pas le... Mais oui, il y avait vraiment le côté... Moi, j'ai souffert de ça, j'ai souffert de ça. Et donc, je me sens toujours proche des gens qui arrivent d'un ailleurs, que ce soit d'une province ou d'une mentalité, je dirais, différente. Moi, c'est toujours les gens dont je me sens proche.
Ensuite, cours privés, conservatoire, lettres modernes à la Sorbonne, tournée dans plusieurs pays du monde et entrée aux Français en 2001, mais de façon un peu fortuite, puisque vous refusez d'abord en 2000.
En fait, il y a une tournée où je suis en 2000 en Amérique du Sud et je suis en vacances avec ma compagne qui a un petit rôle dans la pièce qui se joue, c'est Les Fourberies de Scapin, mise en scène par Jean-Louis Benoît. Et il y a un acteur, Alexandre Pavlov, qui tombe malade et il est hospitalisé. C'est pas très grave, mais il peut pas jouer. Et on me dit, bah, puisque t'es là, le metteur en scène, il se trouve que c'est un concours de circonstances étranges. Le metteur en scène, je le connaissais. Et puis Jean-Pierre Miquel, je le connaissais un petit peu. Il était venu aux Journées de juin, il m'avait rencontré, il m'avait parlé, il avait été très sympathique, etc. Et puis on me dit, bah, on n'a pas le temps de faire venir un acteur de France, donc est-ce que ce soir tu peux jouer Et donc j'ai joué Octave dans Les Fourberies de Scapin. Et les premières phrases, c'est « Fâcheuse nouvelle pour un cœur amoureux ». Tu m'étonnes, j'étais avec ma compagne. « Dures extrémités où je me vois réduit ». C'est les deux premières phrases d'Octave. Et ensuite, ce Jean-Pierre Miquel a demandé à une actrice de me demander si je voulais rentrer au Français. Et là, j'ai dit, bah non, en fait, j'ai trop de choses, et puis c'est pas trop mon truc, j'ai pas très envie. Il s'est passé une année, Marcel Bozonnet est arrivé, et puis il m'a redemandé si je voulais rentrer au Français. Et à ce moment-là, je l'ai rencontré, j'ai vu ses projets, et là, j'ai dit oui. Et puis il m'a dit, de toute façon, ne t'inquiète pas, parce que c'est tous les ans renouvelable. Donc si au bout d'un an, ça te saoule, bah tu t'en vas. Et c'était il y a 25 ans, donc ça m'a pas trop saoulé.
Du temps que les bêtes parlaient, voici comment il en alla.
Si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de Subois.
Laurence Stocker, en 2004, vous jouez à Paris et à New York les Fables de La Fontaine, mises en scène par Bob Wilson. Et j'ai choisi d'en passer un extrait parce que votre découverte, c'est aussi Jean de La Fontaine, mais à la Cité immersive, à partir de juillet.
Oui, alors, il s'est passé une chose étrange il y a 15 jours. C'est pour ça que je dis qu'il y a des mystères, parfois. On m'a demandé de faire une fable dans une immersion pour Vaux-le-Vicomte. Parce que j'avais déjà fait La Fontaine à Vaux-le-Vicomte. Le lendemain, on m'a appelé pour faire à nouveau La Fontaine, mais cette fois-ci dans la Cité immersive. Et ensuite, j'ai mon cousin qui m'a appelé parce qu'il est en train de vider une maison qui appartenait à mon père. Et voilà, je ne vous rentre pas dans les détails. Et il m'envoie un livre du 18e avec marqué dessus La Fontaine, fable. Et dans ce livre, il y a une page blanche et c'est marqué « Ce livre a une histoire ». Désormais il m'appartient, Laurence Stocker, 1989, et en dessous j'ai marqué j'ai 16 ans. Donc dans les trois jours, il y a eu trois choses sur La Fontaine qui font que, vous savez, il y a des choses quand même, parfois, certains appelleront ça des synchronicités, moi je ne sais pas ce que c'est exactement, je vais dire que c'est un mélange de hasard et d'heureux hasard, et d'heureux hasard plutôt, d'heureux hasard, je crois que ça ne se dit pas.
Vous êtes viré de la Comédie Française en une seule émission.
Je suis viré avec Ruff, pam, ça y est, le truc, le couperet va tomber, tu ne reviens pas demain. Non, alors donc, j'ai fait les fables immersives, ça va être en bordure des Champs-Élysées, c'est un local qui va faire 1000 mètres carrés. Moi, je fais La Fontaine et ça va être avec des effets spéciaux, des objets de collection, enfin de nouvelles technologies. Et puis, il y a Alexandre Astier qui fait le lion, Ariel Dombal qui fait le loup, Charles Berling qui fait le renard, Marie Saint-Filtre qui fait la grenouille. Enfin, il y a tout un... Et puis, un groupe de musique électronique qui s'appelle Bon Entendeur qui va faire la musique. Donc ça va rester pendant un an, de septembre 2025 jusqu'à septembre 2026 à peu près, avec donc cette espèce de d'immersion dans La Fontaine. Voilà. Et ça, c'est je trouve ça intéressant parce que c'est entre le musée, le théâtre, le cinéma, enfin il y a tous les arts qui sont mélangés. Au début, moi j'étais un petit peu réticent sur tout ce qu'on entend beaucoup le mot immersif, mais en même temps l'immersion dans une œuvre, c'est quand même bien. C'est comme quand on, finalement, un livre, c'est de l'immersion aussi, hein, quand on est en train de lire un livre. Alors pourquoi pas des endroits, des lieux comme ça d'immersion, quoi.
2004, c'est l'année où vous avez fait la mise en scène de Bob Wilson, mais c'est aussi l'année où vous êtes devenu sociétaire. Et tout à l'heure, vous disiez que votre entrée aux Français était renouvelable chaque année, mais quand on devient sociétaire, on signe un contrat devant notaire, et c'est des contrats de 10 ans.
10 ans au départ.
Ouais.
C'est-à-dire que moi, ça faisait que 2 ans que j'étais pensionnaire, donc quand on m'a proposé d'être sociétaire, je savais qu'il fallait que je fasse encore 8 ans. Donc je me suis dit, bon, bah, alors là, j'ai eu un petit moment de flottement, est-ce que je reste 8 ans ? Et puis, je me suis dit, bon, allez, je pars dans l'aventure, on signe devant notaire, oui, et moi, j'ai un numéro, je suis le 511e sociétaire après Molière. Voilà, on a tous des numéros. Là, on doit être aux 540 et quelques. Donc, même une salle Richelieu qui fait 870 places, elle n'est pas encore remplie par les sociétaires depuis Molière. Et donc, c'est assez tonique de se dire que, voilà, on est dans la continuité de la troupe de Molière, quoi. Même si Molière était mort 7 ans avant la création officielle de la Comédie française, puisqu'il est mort en 1673 et que la Comédie française a été créée en 1680, on a quand même cette filiation avec Molière. Et moi, il ne se passe pas une journée, en tout cas quand je rentre à la Comédie française pour aller jouer, pour aller répéter, je pense toujours à Molière. C'est la première chose qui me vient à l'esprit.
On va revenir à lui, mais quand vous êtes devenu sociétaire, vous disiez que vous étiez très impressionné par le rythme, par le volume de texte appris. Vous disiez, mais comment est-ce qu'ils font pour faire tout ça? Est-ce que je vais y arriver? Quel entraînement physique on a aux Français? Comment est-ce qu'on fait face aux blessures, à la fatigue ou aux maladies? Parce que vous jouez tous les jours, parfois, alors, plusieurs pièces en même temps.
Oui, alors, ouais, c'est-à-dire qu'on se dit, bah, je ne sais pas comment ils font. Et puis, quand ça vous arrive, vous le faites. Ça paraît bête, mais c'est vous, de toute façon, vous n'avez pas le choix. Donc, vous jouez, si vous jouez 9 fois par semaine, vous jouez 9 fois par semaine.
Vous vous blessez parfois ?
Ça m'est arrivé, oui, de me blesser, mais c'est très rare. Moi, je me suis blessé une seule fois sur un spectacle de Molière-Lully avec les Arts Florissants, où je sautais sur un banc et il y avait un clou rouillé. Donc, je me suis ouvert le genou, mais sinon, je me suis fait des petits bobos, mais je me suis jamais fait vraiment mal. Je me suis jamais cassé la jambe ou cassé quelque chose en scène. Parce qu'il faut, c'est comme un entraînement de sportif. Il faut s'entraîner, il faut faire des étirements, il faut pas arriver comme ça directement. Ah si, un jour je me suis déchiré le jumeau aussi.
Le
jumeau, comme au tennis là, le bas du.
Oui, pas votre frère jumeau.
Non. Non, j'ai pas de frère jumeau.
Mais si vous l'avez déchiré, peut-être que vous l'avez plus.
Le c'est frère ça. Jumeau. C'est possible. Mais je m'en souviens plus en tout cas. Non, mais en tout cas, oui, c'est si on se fait des petits, des quelquefois on se fait mal, ouais, comme quand les joueurs de foot ou de tennis, quoi.
Tu vas vendre la propriété. Ah bah c'est bien. C'est bien, c'est une riche idée. Pour Sonia et pour ma mère. Alors pour nous, qu'est-ce que tu décides?
Ah bon, on peut pas régler tout à la fois. Chacun a son temps.
Ah non, mais jusqu'à présent, j'ai pas eu une goutte de bon sens. Je pensais que la propriété appartenait à Sonia.
Bah oui.
Bah oui, mon pauvre père avait acheté cette maison pour la dot de ma sœur. Jusqu'à présent, j'ai été naïf. Je pensais, conformément à la loi, qu'à la mort de ma sœur, la propriété lui reviendrait à elle, à Sonia.
Bien sûr, mais oui, la propriété appartient à Sonia, bien sûr qu'il dit le contraire.
C'est invraisemblable.
Mais on n'arrêtait pas de la vendre sans le consentement de Sonia. D'ailleurs, je me propose de le faire pour le bien de Sonia.
Oncle Vania de Tchekhov sous la direction de Julie Deliquet, un des rôles qui vous a le plus marqué avec Figaro, Laurence Tocqueur.
Oui, parce que Vania, c'est quelqu'un qui est qui ressent une injustice et qui est un être qui est déchiré, qui est fracturé. Et je trouve que ça correspond bien aux acteurs de faire des rôles qui sont pas des rôles faciles, mais où la blessure, la déchirure, le malheur peut être porté sur un plateau. Figaro, c'est parce qu'on lui vole sa femme, sa promise. Et puis Vania, c'est parce qu'il ressent une injustice. Il a ce qu'on appelle un syndrome de quelqu'un qui pourrait être comme un artiste raté. Et donc, il y a toute cette déferlante sur le... J'ai beaucoup aimé jouer ça parce que je trouvais que c'était... comme ce que je disais tout à l'heure, ce qui est bien, c'est de donner la parole à des êtres qui ne l'ont pas. Et au théâtre, au cinéma, si on peut donner la parole à des êtres qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer convenablement, à des êtres qui voudraient dire des choses mais qui ne peuvent pas les dire, on est là aussi pour ça. On est des avocats de cette France silencieuse, pas de cette France d'ailleurs, de ce monde silencieux où la marmite boue et à un moment donné il y a une révolution, on comprend, les gens disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il suffisait de comprendre un peu les tenants et les aboutissants et les injustices que ressentent la plupart des gens et qui, dans leur misère, dans le fait qu'ils n'ont pas assez d'argent pour finir à une fin de mois, le fait qu'ils ne sont pas traités de la même façon s'ils sont malades, enfin, je veux dire, c'est universel. Et donc, voilà. Moi, j'aime bien donner la parole à ces gens-là par le truchement des œuvres.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Laurent Stocker, vous jouez Coviel, le valet de Cléonte dans Le bourgeois gentilhomme de Molière, mis en scène par Valérie Le Sor et Christian Eck. Et c'était votre rôle l'année de votre entrée comme pensionnaire.
Oui, quand Valérie et Christian m'ont proposé de jouer Coviel, j'ai dit oui, pourquoi pas. Je l'ai joué il y a 25 ans, mais ils me disent ah bon, ils n'étaient pas au courant. Et ils m'ont remis, c'était une mise en scène totalement différente. Et donc j'ai rempilé avec Coviel avec plaisir. J'ai pas rejoué de la même façon évidemment. Puis j'avais pris 25 ans, mais c'est le même rôle.
C'était Jean-Louis Benoît qui l'avait mis en scène.
Jean-Louis Benoît.
C'est lui qui vous a fait jouer dans votre premier film aussi, La mort du Chinois.
Exactement, et c'était la mise en scène de Jean-Louis Benoît quand j'étais en Amérique du Sud, où j'ai remplacé Alexandre Pavlov.
Est-il vrai que lors de votre arrivée à Paris, la première chose que vous ayez faite, c'est de vous rendre sur la tombe de Molière ?
Oui, et la tombe de Molière, elle est juste à côté de la tombe de La Fontaine. Donc c'était les deux.
Vous avez quelques accointances ?
J'ai quelques appointances, mais de toute façon, c'est pas leurs restes qui sont dedans. Mais symbolique.
Vous avez vérifié ?
Non, mais les historiens vous diront que.
Vu votre passé.
Par rapport au cimetière des Innocents, et puis Molière, il a été. Les eaux ont été mélangées, donc ils ont ramené des restes. Ils ont ramené des restes au Père Lachaise. Mais ce qu'il y a de beau, c'est leurs deux cercueils, enfin leurs deux pierres tombales qui sont surélevées et qui sont vraiment côte à côte, quoi. Ils sont en discussion, tous les deux, là.
Vous dites que vous venez d'un milieu modeste, plutôt éloigné du théâtre, et que pour vous, Molière, ça représentait une sorte d'absolu de Dieu vivant.
Oui, parce que quand on fait du théâtre au collège, les premières choses qu'on vous fait faire, c'est Molière. La première fois où je me suis produit en scène d'une façon sérieuse, entre guillemets, où j'avais 12 ou 13 ans, on présentait, je faisais Le Malade imaginaire, avec la chaise percée et tout. Ça, c'était dans une salle des fêtes dans les Vosges, à Neufchâteau.
Donc Argan.
Et je faisais Argan.
Que vous aimeriez faire aussi à l'âge adulte, si je puis me permettre.
Bah oui, pourquoi pas, oui, j'aimerais bien jouer Argan une fois. Parce qu'en plus, comme je suis un peu hypochondriaque, c'est un rôle qui me plairait bien de jouer un jour ou l'autre. Mais c'est vrai que Molière, c'était vraiment quelque chose d'un peu intouchable, quoi. Et puis, en fait, quand on est gamin, quand on est adolescent, et qu'on a un bon prof, moi j'avais la compagnie Dominique Houdard qui était à Épinal, qui nous faisait les cours, il y avait un super prof de philo qui était le responsable de l'option théâtre, on joue et puis on se dit « Ah mais c'est pas si compliqué que ça Molière !» Et puis alors la salle, il y avait je sais pas 300 personnes, tout le monde riait beaucoup, et j'ai un souvenir hyper fort de ça, de ces moments où les gens, on se dit « Ah on arrive à faire rire !» Et je me souviens d'une chose, là parce que vous m'en parlez, c'est que plus les gens riaient, plus j'étais tétanisé et plus j'étais sérieux je crois, et c'est ça qui faisait rire. Et ça m'a jamais quitté, et c'est pour ça que quelquefois il y a des gens qui arrivent à avoir des fous rires en scène. Moi j'en ai eu très très peu dans ma vie, parce que on n'arrive pas à me faire rire en scène. Moi je fais rire certains et je m'en veux des fois, mais en faisant des conneries ou des trucs qui sont pas tout à fait prévus, et puis voilà. Mais je suis pas rieur en scène, parce que ce côté sérieux, c'était un côté, j'étais tétanisé en fait de jouer, et je suis resté sérieux, et je crois que c'est en restant sérieux que les gens ont ri.
Le soulier de satin, action espagnole, en quatre journées.
Il n'y a pas un mouvement de mon corps qui ne vous dise que je ne suis plus à vous.
Vous êtes à moi, tant que vous êtes capable de me rendre service.
Mais quel service ? Quand celui-ci même, je le vois mourir.
Où qu'elle soit, je sais qu'elle ne peut pas s'empêcher d'entendre les mots que je lui dis.
Toujours.
Extrait du Soulier de Satin de Paul Claudel, mis en scène par Éric Ruff, qui a émerveillé les publics à la Comédie Française et qui sera joué dans la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon du 19 au 25 juillet. Laurent Stocker, vous avez reçu le Molière du meilleur comédien dans un second rôle, enfin par Éric Ruff, puisque vous étiez sur scène à ce moment-là, mais vous tenez quatre rôles dans ce spectacle de 7 heures, Don Balthazar, l'archéologue, Almagro et le second roi d'Espagne. C'est très physique ?
C'est pas le rôle le plus physique que j'ai joué, parce que par exemple...
Vous faisiez des saltos, vous, avant ?
Oui, j'ai joué le dindon, où je faisais un salto arrière, oui. Ouais, j'étais très souple, moins maintenant, mais quand j'étais plus jeune, ouais, quand j'avais une vingtaine d'années, ouais, mais je fais encore des rôles assez physiques, mais bon, c'est vrai que j'ai moins l'agilité que j'avais forcément il y a 30 ans. Mais là, Balthazar, c'est un homme qui est énorme, donc c'est une espèce de montgolfière. Donc c'est fatigant à jouer parce qu'il est, est au sol et il est très gros, justement. Et donc je me suis renseigné comment les gens très très obèses, en obésité morbide, comment ils courent, etc. Ils sont tout de suite essoufflés, etc. Il y a ça. Après, ils meurent. Donc, après, je passe sur Almagro, qui est une espèce de voyou, comme ça, qui a avec une perruque, etc. Mais c'est pas... C'est fatigant sur la longueur, si vous voulez, parce que c'est un spectacle qui dure 8 heures avec les entractes, qu'on va jouer là à Avignon, mais c'est pas... Je dirais pas que c'est physiquement très fatigant. C'est éprouvant, mais c'est pas fatigant physiquement.
Alors, il y a une chose amusante, c'est que tout à l'heure on parlait de la synchronicité ou des coïncidences, et enfant vous observiez du jardin familial l'ancien château de Paul Claudel.
Alors oui, parce que en fait j'avais une maison quand j'étais enfant. Paul Claudel, il est de l'est de la France. Moi j'ai grandi dans un village de la Meuse à côté de Bar-le-Duc qui s'appelle Ville-sur-Saulx, et dans ce village il y a il y avait la papeterie Lyon Claudel. C'était une papeterie. C'est une papeterie qui est une papeterie du XIVe siècle et qui a fermé ses portes dans les années 70 seulement. Quand j'ouvrais les fenêtres de ma chambre, je voyais le château où Paul Claudel effectivement avait écrit Partage du Midi, et où il avait ses cousins, où il venait passer les étés, tous les étés, dans ce château.
Laurent Stocker, j'ai lu que pour préparer un rôle, vous épuisiez le sujet, vous vous renseignez sur absolument tous les aspects du rôle que vous devez préparer, sur l'auteur. Qu'avez-vous appris sur Claudel ? Était-il aussi malheureux et sacrificiel que les personnages du Soulier de Satin ?
J'ai l'impression qu'il était un homme, certes, en souffrance, oui. Et c'est pour ça qu'il... Donc d'abord, il a cette espèce de révélation sur un des piliers de Notre-Dame où il a l'impression, il y a un côté Jeanne d'Arc, hein, que quelqu'un lui susurre des mots à l'oreille et il dit « ça y est, c'est Dieu qui me parle ». Ça, c'est une chose. Et puis, une autre chose, c'est son rapport avec Rosa Vetch, qui était son grand amour, avec qui il a eu une enfant. Et voilà, je pense qu'il ne s'est jamais remis de cette dichotomie entre la vie familiale un peu bourgeoise, de province, et puis ensuite quand il était ambassadeur, etc. Et puis ce côté complètement de transcender tout ça avec une maîtresse avec qui il a vécu une passion folle, qui raconte d'ailleurs plus ou moins dans Le Soulier de Satin, enfin qui raconte tout court d'ailleurs.
Thank you.
C'était votre choix musical, Laurence Tocquart. La bande originale du film Coup de tête de Jean-Jacques Hano, sorti en 79, est composée par Pierre Bachelet.
Mmh. J'aime beaucoup ça, parce que c'est une musique qui est d'abord sifflée. Moi, j'adore siffler. Allez-y. Siffle beaucoup. Ouais, ça, j'adore.
Quelle est l'astuce ?
Je siffle entre mes dents de
oui,
devant.
Oui, parce que vous ne faites pas la tête que font les gens qui
non, parce
sifflent.
Que je suis ventriloque de sifflage. Donc, des fois, quand il y a des gens qui m'embêtent dans le métro ou quoi, je fais ça et ils se disent « Mais d'où vient ce sifflement qui est agaçant ?» Et en fait, c'est moi parce que je fais... par exemple.
Ah oui, c'est sidérant.
Et on ne voit pas
que
c'est moi qui siffle.
Bah non,
alors
qui
on se dit, mais ça siffle d'où. Et j'aime bien parce que c'est une musique que je trouve sympathique, joyeuse et en même temps très triste. Et ça correspond bien. Et puis ça s'appelle coup de tête. Moi j'aime bien les choses qui sont faites parfois sur des coups de tête. Même si c'est irréfléchi et que quelquefois on s'en mord les doigts, c'est bien aussi d'avoir des coups de tête. Des coups de cœur et des coups de tête.
Oui, Madame Lambert, excusez-moi, je sors d'une agence de voyage, là. Il y a un paiement qui passe pas à cause d'un misérable billet d'avion, je comprends pas. Bah oui, en business, je voyage pas dans la soute, Madame Lambert, ni dans la bétaillère en classe économique, merci bien. Quel découvert. Mais tout augmente, Madame Lambert. Une villa face à l'océan, c'est 5000 euros minimum la semaine. En vacances, mais c'est un séjour. Tout ce qu'il y a de plus studieux, je pars avec une jeune auteure pour finaliser le best-seller de la rentrée. Vous avez déjà entendu parler de Dolly D? Enfin, elle est très connue, enfin, excusez-moi. Elle est tiktakeuse, elle est influenceuse, elle est facebookeuse. Elle a plus de 2 millions de followers. 2 millions de followers, vous comprenez ça?
Oui, bon, ça fait quelques semaines qu'on a des difficultés. Quelques mois, si vous voulez.
Quelques années, je vous l'accorde, ne jouez pas sur les mots, Madame Lambert. Mais vous vous rendez pas compte, avec Dolly D, mais ça va être un véritable tsunami au niveau des ventes. On frôle l'irrationnel. Sortez vos brassards, hein, Madame Lambert. Sortez vos brassards.
Laurence Tocquart, vous êtes depuis ce matin à l'affiche de Vacances forcées de François Prévost, Légoni et Stéphane Archinard. Vous y jouez l'archétype d'un éditeur snob et érudit de la rive gauche. L'intrigue du film, c'est une sorte d'arnaque à la location. Deux familles que tout oppose, ainsi que votre tandem éditeur et influenceuse, sont contraintes de partager une maison de vacances. Il y a trois membres de la Comédie française au casting, Pauline Clément, Claïna Clavaron et vous-même.
Oui. C'est un hasard, mais on a tourné au mois d'août, donc la Comédie française est enfermée au mois d'août. On retrouve parfois des comédiens de la Comédie française dans certains films. Et là, c'est des gens que tout oppose, qui ne devraient absolument pas se rencontrer, qui sont pas faits pour se rencontrer, on va dire. Et puis, ils sont obligés de partager une maison parce qu'il y a eu un bug sur Internet, sur une plateforme de réservation. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah, qu'est-ce qui se passe quand on peut pas aller dans un autre endroit et qu'on se retrouve à passer 15 jours avec des gens, a priori, que tout oppose. Faut pas spoiler, mais c'est sur le bien vivre ensemble, c'est sur le côté... j'aime beaucoup ce film parce qu'il y a un côté... tout n'est pas perdu, même si on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Et puis, on apprend parfois plus de gens qui ont des avis totalement différents que d'amis proches avec qui il ne va rien se passer, parce que finalement, on a les mêmes idées, on a les mêmes goûts, etc. Alors, tout est en osmose et tout, mais c'est l'inverse du théâtre et c'est l'inverse de la comédie, quoi. Donc, ce qui est beau dans la comédie, c'est quand tout éclate et que rien ne se passe comme ça aurait dû se passer, quoi.
Vous dites justement que la comédie, c'est votre registre de prédilection. Enfin, on vous a quand même confié des rôles très sérieux de président, de ministre, de juge, d'avocat.
Oui, alors, les présidents en question n'étaient pas vraiment sérieux.
Oui, bon.
Il y avait un président qui a existé, et oui. Puis il y avait un autre président oui. Qui était totalement...
sous contrôle.
Sous contrôle, qui n'a jamais existé, a priori, mais qui est complètement fou, quoi.
Charles Guizaloir et Erwan Leduc.
Oui.
Qui était une série très chouette.
J'ai fait deux présidents. Juste après avoir fait des présidents, j'ai fait un tueur en série.
Oui, justement, alors ça, j'aimerais bien que vous en disiez un petit mot. C'était dans Les pistolets en plastique de Jean-Christophe Meurice. Là, on sent quand même une jubilation dans l'incarnation de ce personnage qui est inspiré de Xavier Dupont de Ligonnès.
Bah oui, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est les personnages qui sont les plus complexes. Je pense qu'un tueur en série, c'est quelqu'un qui est d'une grande complexité, même si évidemment c'est atroce ce que font les tueurs en série. Mais
là, vous êtes assez séduisant comme tueur en série.
Oui, alors c'est ce que voulait le réalisateur, parce que un tueur en série qui est atroce, qui est on change de trottoir quand on le voit, etc. C'est évidemment le truc attendu et l'image d'Épinal que les gens veulent avoir. Mais le pédophile, le tueur en série, etc. C'est le gars qui, a priori, quand on le croise, on se dit pas que c'est un tueur en série. Donc on fait confiance. Et puis en fait, voilà, lui, sa famille, évidemment, lui fait confiance et il tue tout le monde dans le film. Bon, après, c'est pareil pour tous les gens qui commettent des exactions. Je pense que ce sont des gens qui, a priori, sont très sympathiques et dont on ne se méfie pas. Le gars qui arrive, on se dit, oh là là, lui, je, surtout pas, il va me rouler dans la farine, etc. Et puis, ça se trouve, ce gars-là, ça va être le mec le plus gentil du monde. C'est pour ça que j'aime pas, c'est ce que je disais, j'aime pas les côtés... l'habit fait pas le moine, c'est pas idiot de dire ça, mais c'est vrai. Et il faut toujours dégager le côté humain d'une personne qui, finalement, est déshumanisée.
Vous pensez pas, parfois, qu'on porte un petit bout de son âme sur son visage ?
Ça peut arriver. Il y a des gens qui ont une bonté comme ça sur leur visage, mais qui peuvent être de véritables ordures. Et puis il y a des gens qui sont pas gâtés par la nature, qui ont des sales gueules, pardon, mais et qui sont des gens magnifiques. Donc voilà. Après, oui, il peut arriver aussi que quelqu'un représente à peu près son physique. Ça peut arriver.
Non. Qu'est-ce que tu penses de ça tourne ?
Non.
Qu'est-ce que tu penses de ma moustache ? Il y a un peu de rimmel.
Oui. Elle est poivre et sel.
Oui.
Elle a été longtemps poivre.
Et maintenant, elle est plutôt sel que poivre.
Oui, oui.
Bon, on y va ?
On y va. Cher Michel Serrault, c'est une joie de vous rencontrer. Vous venez de tourner deux films de suite.
Ah, pas de suite, avec un petit intervalle.
Oui, un petit chouïa entre les deux, quand même. Alors, le premier...
Qui c'est qui se mouche ?
C'est un désordre incroyable.
Alors,
on a plus de respect.
J'ai tourné, tu le sais bien, puisque tu es venu me voir. Tu viens me voir à chaque fois pour voir si c'est bien ce que je fais. Oui. Je ne peux pas faire un film sans te voir dans un coin. Mais comment il tourne, comment il va être, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il a changé ses mimiques, etc.
Oui, oui, oui.
Je t'ai vu dans le bon plaisir.
Oui, mais tu n'as pas changé tes mimiques d'ailleurs. J'ai
changé ma coiffure.
Ah oui, mais c'est ça.
Pour un acteur, changer de coiffure, c'est déjà énorme.
Non, ce qui m'intéresse.
Moi, j'en connais qui ne changent même pas de coiffure.
C'est Michel Serrault et Pierre Tchernia magnifique. En 84 sur la RTBF. Laurence Stocker, je crois que Michel Serrault, c'est quelqu'un qui a été très important pour vous.
Oui, parce qu'il suffit de le regarder jouer et puis de comprendre ce que c'est qu'un acteur. Parce qu'il y a le deuxième degré, il y a le troisième degré, il y a le quatrième degré chez Serrault. Et puis j'adore cette façon extraordinaire de
nasal.
C'est magnifique. Il a une... Et puis la liberté. Si on a choisi de faire ce métier, c'est pour être libre. Et lui, il est d'une totale liberté. Moi, quand un metteur en scène ou un réalisateur me cantonne dans le rôle du prisonnier, de l'acteur interprète prisonnier, je ne peux plus travailler avec des gens comme ça. Moi, j'aime bien être libre et j'aime bien que... J'aime bien travailler en osmose, mais... Et lui, il avait une liberté totale. Après, c'est compliqué en tournage, il fallait trois caméras parce qu'il ne fait jamais la même chose. Mais en tout cas, c'est un génie.
Laurence Stocker, je sais que vous aimez beaucoup le livre Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Est-ce que vous auriez juste un titre à recommander aux auditeurs, n'importe lequel, autre ?
Je viens de lire Les Guerriers de l'Hiver d'Olivier Norek, qui est passé du polar au roman. Et j'ai trouvé ça très très bien parce que ça parle de la Finlande avec la Russie et on y voit l'Ukraine et la Russie d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Laurence Stocker.
Merci à vous.
Vacances forcées de François Prévost, Légonie et Stéphane Archinard est en salle depuis ce matin. Le bourgeois gentilhomme, mis en scène par Valérie Le Sort et Christian Rex, se joue jusqu'au 14 juillet, salle Richelieu à la Comédie Française. Le soulier de satin de Paul Claudel, mis en scène par Éric Ruff, sera à la cour d'honneur du Palais des Papes à Avignon du 19 au 25 juillet. Et je signale que vous faites les voix masculines de Quand les dieux rôdaient sur la terre de Pierre Judet de la Combe sur la chaîne toutes les semaines.
Et il y aura aussi les fables immersives, donc, aux Champs-Élysées à partir de septembre.
Nous y serons. Enfin, pas moi, mais...
C'est un peu tôt, mais de l'annoncer...
Moi, j'y suis déjà.
C'est vrai ? Ça
oui,
y est.
J'y suis. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Pascal Dassibat et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin. À la technique, Loïc Frapsos.